vous êtes bien sur une émission de Radio Saint-Ferréol.
Ici et d'ailleurs, une émission sur les migrations.
Migration d'ailleurs vers ici, d'ici vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
Un invité.
Son témoignage.
Son parcours.
Son expérience.
Des chroniques.
Géopolitique.
Juridique.
Linguistique.
Bonjour et bienvenue. Alors vous êtes sur une nouvelle émission d'ici et d'ailleurs. Ici en studio, donc je suis Claire, il y a Sarah, Nabi et une invitée, Sylvie Garceau, qui va venir nous parler un petit peu de son parcours. Mais avant d'en dire plus, je propose juste un petit moment d'écoute. Alors, Sylvie, on est où là? Qu'est-ce qu'on entend?
Alors, ce que vous entendez, c'est le cri du huard. Moi, je viens de l'Abitibi, Témiscamingue. Donc, dans ma région, il y a ce cri du huard qu'on entend sur les lacs le matin, quand il y a une petite bruine, et que ça transperce, parce que c'est un cri très strident. Et donc, c'est un des oiseaux que je préfère en Abitibi.
Voilà, donc vous l'aurez compris, notre émission du jour, elle est consacrée à un invité, une invitée, Sylvie Garceau, qui vient du Québec, et donc particulièrement dans sa région de cœur, qui est l'Abitibi. On fera un petit peu comme à l'habituel dans cette émission. On essaiera de se centrer d'abord sur le parcours et l'expérience de cette invitée, et puis d'éclairer tout au long de l'émission sur certains points qui parfois demandent un petit peu d'explication. D'abord sur l'histoire rapidement et la présentation du Québec. Et puis, bien sûr, on évoquera ton parcours. Et puis, une petite chronique linguistique parce qu'il semble que quand même le français québécois et ses spécificités qui fait beaucoup parler les Français et dont on est très curieux d'en savoir un petit peu plus. Et puis de nouveau sur le parcours de Sylvie. Et enfin une petite chronique sur l'histoire et la géopolitique avant peut-être d'aborder la question des peuples autochtones dont Sylvie, tu nous en diras un petit peu plus j'espère.
Bien sûr, avec plaisir.
Voilà.
Alors moi, je propose qu'avant de commencer sur ton parcours, ton histoire, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel rapide, puisqu'on y reviendra par la suite, d'une petite présentation du Québec, parce qu'il y a sans doute pas mal d'auditeurs qui connaissent pas trop. On sait que le Québec existe, mais on ne sait pas forcément ni la taille, ni où, ni comment, ni la population qui y habite. Mm-hmm. Juste quelques données.
Bon. Alors, le Québec, je pense qu'il y en a quand même beaucoup de Français qui viennent au Québec depuis longtemps. Alors, c'est au Canada. Ça fait partie des 10 provinces du Canada, d'est en ouest, de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Pacifique. Le Québec se trouve plus à l'est du Canada. Il fait à peu près 2,5 fois la France, parce que le Québec, à part Montréal et Québec, on parle souvent, il part quand même de l'embouchure du Saint-Laurent, et puis il va jusqu'au Labrador. On a quand même une partie du Labrador qui appartient au Québec, et les territoires du Nord-Ouest qui appellent maintenant aussi. Et donc, le Québec aussi est divisé en 8 régions. Et donc, l'Abitibi est la plus jeune région du Québec, qui est arrivée en 1908. Voilà. Donc, mon grand-père était le premier maire de la ville de Sainte-Terre en Abitibi, qui est une toute petite ville, mais quand même. Et donc, où ma mère est née, une des premières naissances, dans cette petite ville de Sainte-Terre en Abitibi. Voilà. Ça vous donne un peu une idée.
Tout à fait. Puis une idée en plus avec ton expérience, donc c'est génial.
Et bien justement, en partant de cette région-là, est-ce que tu peux nous dire un peu ta vie là-bas, comment c'était? Eh bien, tu es née là-bas, donc, toi ?
Excuse-moi. Oui, non, mais je ne suis pas née dans la région de l'Abitibi. Ah. Parce que je suis née à Shawinigan, au Québec aussi. Il faut dire, entre parenthèses, qu'il y a beaucoup de noms amérindiens, puisque c'était amérindien dès le départ. Donc, Shawinigan, t'as Hochelaga, t'as Abitibi, qui veut dire partage des eaux, Témiscamingue, qui veut dire eau profonde. Voilà, donc moi, je suis née à Shawinigan, parce que mon père était journaliste là-bas pendant plusieurs années. Et puis, malheureusement, il a été muté à Montréal et il est mort quand j'avais 8 ans. Donc, de par ce fait, ma mère étant de l'Abitibi, qui avait un frère là-bas, son frère lui a vendu un motel qui a réussi à nous faire survivre parce qu'on était 7 enfants, on l'est toujours. Et donc, voilà, ma mère avait 40 ans quand mon père est décédé, donc il fallait qu'elle travaille pour la première fois de sa vie aussi à l'extérieur de la maison, parce que la maison, on en faisait beaucoup. Voilà pourquoi, là, de l'Abitibi, je suis restée environ jusqu'à mes 18 ans, parce qu'après, il faut aller au Cégep, c'est le collège d'enseignement général et professionnel qui existe au Québec et qui fait penser un peu au lycée, ici, qui se rapporte à peu près. Et donc, j'ai dû partir... Et je suis allée habiter à Hull, tout près de la frontière ontarienne, tout près d'Ottawa. Voilà. Okay. Et puis, après, est-ce que je continue mon parcours?
Pour savoir un petit peu jusqu'à ta venue en France, peut-être tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait là-bas après le lycée.
Alors, pour faire une histoire un peu plus courte, parce que je suis partie... Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, je pense que je suis née pour déménager, parce que j'ai déménagé toute ma vie. Et encore aujourd'hui, je suis à Cré depuis un mois et demi. Et puis, je ne pensais pas. La vie m'a amenée jusqu'ici, puis je suis très, très contente. Franchement, ça fait qu'un mois et demi, j'ai l'impression de connaître des tonnes de monde. Puis, les gens sont sympathiques, sont accueillants. Franchement, merci beaucoup. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'après...
Merci à toi.
J'ai fait mes études à Hull. Ça s'appelait documentaliste. Okay? J'ai fait des études on disait bibliotechnicienne. Après, on a dit technicienne en documentation, mais peu importe. Donc, j'ai travaillé au Québec. J'ai travaillé à Toronto aussi pendant plusieurs années. Et j'ai travaillé aussi à Ottawa. Donc, j'ai appris beaucoup l'anglais.
Documentaliste, du coup?
Oui. Ouais. Et je suis partie en Égypte. Bon, dans mes voyages, je suis restée un an là-bas. Ça ne devait pas arriver, mais je suis restée quand même. Et donc, je suis revenue au Québec ensuite. Et là, je suis venue en voyage pendant un an en Europe, je dirais, particulièrement en France. Et j'ai une amie qui était à l'époque à Montpellier et qui connaissait une autre amie en Savoie. Et ils m'ont dit, si tu veux fêter Noël dans la neige, parce que ça nous manque toujours. Ça faisait déjà 6 mois que j'étais en France et en Italie, et voilà. Elle a dit, ben, viens passer Noël à Cellier, dans un petit village de montagne de Savoie, qui est sur la route du col de la Madeleine, qui est près d'Albertville. Et donc, je suis arrivée dans ce petit village où il y a 4 villages et il y a 32 personnes qui habitent. Qui habitaient et qui habitent à peu près encore. Mais il y a beaucoup de touristes aussi, quand même.
Et donc, tu avais quel âge, là, à ce moment-là?
Là, je suis arrivée assez vieille, finalement. J'avais à peu près 27 quand je suis venue la première fois à Cellier. Et donc, j'ai connu Claude, ma grande amie aujourd'hui, depuis, qui reprenait l'hôtel de ses parents et je lui ai demandé, je lui ai proposé de venir travailler un an avec elle, ce qui a été fait, très vite d'ailleurs. Donc, je suis restée là et j'ai connu son frère, qui est berger depuis l'âge de 14 ans. C'est une passion à vie. Et que, de fil en aiguille, je suis allée en montagne et il m'a expliqué tout ce qui est la transhumance depuis ses débuts. Les transhumants qui venaient à Cellier quand il était tout petit, et dès l'âge de 14 ans, il a dit, c'est ça qui sera ma vie. Et maintenant, il y a encore plus de 60 ans, et il est toujours là-haut. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à écouter l'histoire de Marie Moron, qui est une femme du Sud, à aller chez les vieux bergers qui sont transhumants, comment ça se passe vraiment la transhumance depuis le début. Et donc, après, il m'a proposé de travailler avec lui. Et c'est pour ça que je suis venue en France, finalement.
Et là, tu as passé un an à ce moment-là?
À ce moment-là, j'ai passé un an où je travaillais à l'hôtel et j'allais en faire mon tour en alpage parce que ça m'intéressait bien.
Et t'es revenue au Québec après?
Oui, je suis revenue au Québec. Et l'année d'après, Fernand m'a proposé de venir travailler avec lui en alpage.
Et avant peut-être qu'avant de quitter le Québec et l'Abitibi, on pourrait écouter une petite chanson?
Ah ben oui, un de nos poètes québécois.
Oui, parce que
Raoul Duguay et qui vient de l'Abitibi. Et c'est vraiment un gars qui est vraiment bien, bien connu, entre autres au Québec, bien sûr, mais surtout en Abitibi.
On y va alors.
Moi, je viens de l'Abitibi, moi, je viens de la Bétatibi, moi, je viens d'un pays qui est un arbre fort. Moi, je viens d'un pays qui pousse dans le nord. Dans ce pays qui était comme un œuf, le 13 février 1939, je suis né à Val-d'Or en Abitibi, dans ce pays qui est encore tout neuf. J'avais connu Harry Sturcott qui vivait en de beaux douairons, qui parlait aux hommes et aux tons, qui chaque matin chaussait ses bottes pour aller comme Gino Hébert fin de la forêt avec ses mères. Qui avait pas de chinso, qui avait haché boxo, pis des bras durs comme la roche, pis des cuisses comme des troncs d'aube, pis du front tout le tour de la tête. Et qui n'était pas si bête. En 1910, en Abitibi, dans mon pays, j'allions jouer au bois avec les épinettes et les bouleaux, je m'y en gazouillais avec les oiseaux. Quand j'étions petits, je suivions le ruisseau. Je jouais de la ricana sur la rivière harmonica. Je regardions passer les gros chars sur ma petite scène qui venait en or. Dans un banc de neige, je creusais maison et dans la glace, j'écrivais ton nom. L'hiver à l'aréna, on patinait tout en temps. L'été près du lac Bloué, on faisait semblant de rien. On ramassait des beloits à Convanda pour presque rien. En 1900, quelque en Abitibi, dans mon pays, qui a un ventre en or. Moi, je viens d'un pays où ce qui neige encore. Dans ce pays qu'on dit hors de la carte, mon oncle Edmond travaillait sous la terre, mais il creusa dans l'or sa propre mort. Mon oncle Edmond nous a mis sur la carte. Dans mon pays qui a grandi, il paraît qu'au tout premier temps, on y cogna beaucoup d'argent. Il y a de l'or en or qui dort et c'est. Il y a même des poignées de porte en or, un cuivre en fer qui vont de l'autre bord. J'aimions jouer dans la fanfare pour épater tous les pétards. Quand j'allions au château et ne boire et rire avec mes piastres, j'en revenions comptant les astres au petit matin près de la mine. En 1900 août, en habit colonisé.
libérer.
Bon, ben, c'est fini.
Elle finit la chanson. Allez.
Alors, Sylvie, dis-nous, elle parle de quoi, cette chanson ?
Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un auteur, Raoul Diguet, qui vit en Abitibi depuis toujours, et c'est notre grand poète de l'Abitibi. Et ben, il retrace un peu l'époque de l'Abitibi, l'histoire de l'Abitibi, parce que l'Abitibi, entre autres, est renommée, avant, il n'y avait rien en Abitibi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la dernière région à rentrer dans les provinces du Québec. Mais on savait très bien pourquoi qu'on venait en Abitibi, parce qu'il y a de l'or, du zinc, du cuivre, il y a beaucoup de bois, il y a des lacs et des rivières, et il y avait beaucoup de peaux de fourrure que les Amérindiens amenaient de la baie James, entre autres. Donc, bien sûr, ça l'a intéressé nos grands industriels. Ils sont venus ouvrir plein de mines,
dont la mine à Val-d'Or. Ils ont créé
deux villages. C'est-à-dire que je crois que c'était durant la crise et qu'il n'y avait plus de boulot à Montréal. Donc, on a dit, on va aller en Abitibi. On a donné un lopin de terre aux gens. Et on a dit, là, vous allez construire votre maison là-dessus. Et puis, ça va s'appeler l'Abitibi. Enfin, partage des eaux, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, les gens sont partis avec rien. Et ils ont construit leur maison et l'Abitibi s'est fait comme ça, petit à petit.
Et alors, pardon de cette question, mais sur ces terres-là, il n'y avait personne ou il y avait déjà
des... Il y avait déjà les Amérindiens, bien sûr.
Donc, ils ont été
mais c'est tellement
délogés.
Immense, ça fait une fois et demie la France, l'Abitibi. Donc, c'est sûr que les Amérindiens étaient aussi beaucoup près des rivières à cause de tout ce que ça peut apporter. Et surtout, ils venaient par canoë pour venir avec leur fourrure, pour les vendre. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'a dû naître Hudson's Bay, qui est une grande... qui a été un magasin qu'on appelle à Montréal, où on vendait beaucoup de fourrure à l'époque et de peau. Voilà. Et donc, comme je disais aussi, au début, mon grand-père est arrivé là-bas, et ça a été le premier maire de la petite ville d'où je suis née, mais aussi, il a ouvert un magasin général avec son frère. Et c'est comme ça que ma mère est née dans ce coin-là.
Magasin général, ça me fait penser à quelque chose. On peut faire une petite aparté?
Bien sûr.
Sur le magasin général?
Bien sûr. Il y a une BD qui s'appelle Le magasin général, qui a été faite par Loisel et, excusez-moi, je ne me rappelle plus du nom de l'autre personne, qui ont fait... c'est l'histoire du Québec aussi, entre autres dans un petit village. C'est toute l'histoire du village, ça se fait en 9 volumes et vous pouvez même le trouver à la médiathèque de Cray. À lire avec bonheur.
Eh bien, merci Sylvie. Et dans les paroles de la chanson là, qui nous est écoutée, l'Abitibi, qu'est-ce qui racontait? Juste, tu pourrais juste nous en redire?
Ouais. Alors, ce qui est bien aussi chez Raoul Duguay, c'est qu'il a mis presque des mots d'ancien français au travers de sa chanson, parce qu'il dit, bon, moi je viens de l'Abitibi, moi je viens de la bite à Tibi. Donc, bon, assez cru. Moi je viens d'un pays qui est de lacs bien rares. Moi je viens d'un pays où c'est que le poisson mort. Parce que c'est un poisson où il y a 100 000, c'est une région où il y a environ 100 000 lacs. Et donc, c'est sûr que la pêche, la chasse, c'est la chasse à l'orignal, la pêche au doré, la truite, le brochet, mais aussi, il y a beaucoup d'ours, il y a beaucoup d'animaux sauvages, hein, parce que c'est une des régions les plus sauvages du Québec. Et donc, il relate ça parce que ça fait partie de lui. Et il disait, quand j'étions petit, j'allions jouer au bois avec les épinettes et les bouleaux, j'aimions gazouiller avec les oiseaux. Quand j'étions petit, suivions le ruisseau, je jouais de l'aricana sur la rivière Harmonica, ce qui est l'inverse. Il jouait de l'harmonica sur la rivière Aricana. Et petit aparté, c'est que si vous connaissez Bernard Clavel, il a écrit un livre qui s'appelle Aricana et un deuxième livre qui s'appelle Les Portes du Nord et qui relate exactement l'histoire de l'Abitibi. Si ça vous dit, c'est bien fait, franchement, je l'ai lu. Voilà.
Merci Sylvie. Eh ben, on a déjà une image un petit peu plus précise de l'Abitibi, ou en tout cas, ça suscite des images dans notre imaginaire. Et puis, ça fait le lien aussi dans ton parcours, puisque tu es née dans une région avec ses grands paysages et tu es arrivée en France aussi par la montagne et par des grands paysages. Donc c'est vraiment une part touchante de ton histoire. Mmh. Et tu as commencé à nous faire écouter la langue. Je propose qu'on fasse le moment de la chronique linguistique juste après une pause musicale.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qu'on passe comme musique?
Si je peux faire juste une petite aparté avant, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais là j'ai choisi une chanson de Richard Desjardins qui vient de l'Abitibi et qui est un homme extraordinaire, qui est venu beaucoup en France chanter, qui a écrit la chanson d'ailleurs que Cabrel chante, quand j'aime une fois, j'aime pour toujours, c'est les paroles sont de Richard Desjardins, qui est né à Rouyn-Noranda et qui est un ami de nous tous parce qu'on l'a connu à ses débuts. Quand il venait, il faisait partie d'un groupe qui s'appelle Abitibi, d'ailleurs. Et puis maintenant, il fait en solo. Mais c'est un gars qui a toujours milité très, très fort pour la déforestation, entre autres. Il a écrit, on le dira peut-être à la fin, il a écrit des livres, il a écrit de la musique. Et il fait partie de beaucoup, beaucoup de dénoncements par rapport aux mines, à la déforestation surtout. Et donc, j'ai choisi une de ses chansons qui date un peu, mais que moi, j'aime beaucoup.
Eh bien, on écoute alors. Merci, Sylvie.
Merci.
Je connais pas le nom des étoiles dans le ciel, ni des rivières, ni des oiseaux. Honte à moi trop souvent, je connais pas le chemin qu'il me faudra prendre pour être content. Je connais pas la couleur d'un bill de vin. Je connais même pas le nom de mon voisin. Je connais rien, mais il va toujours y avoir la neige au mois de janvier. Il va toujours y avoir un feu de forêt dans le temps des Belois. Toujours y avoir du vent sur le Saint-Laurent. Tu peux pas changer ça. Chante-moi pas.
Il va toujours y avoir de l'eau dedans mon vin. Il va toujours y avoir quelque chose en moins quand tout ce que t'as, c'est une tranche de pain. Quand le vent il souffle, moi je sais d'où c'est que ça vient. Il y en a qui ont tout, puis toutes les autres qui ont rien. Change-moi ça.
À quel moment de ton histoire tu l'écoutais cette chanson, Sylvie?
Au début, quand j'ai connu Richard Desjardins, quand on a connu, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait Abitibi, comme je disais tout à l'heure, on allait le voir, on partait de l'Abitibi. C'est quand même à 7 heures. À l'époque, en plus, il n'y avait pas la route goudronnée. Quand je parle de ça, ça fait plus de 30 ans quand même, hein, même bientôt 40. On partait souvent de Val-d'Or, puis on allait jusqu'à Montréal. On revenait le lendemain matin. On allait voir à Montréal juste pour voir le spectacle. On faisait 7 heures d'autobus et on revenait dans la nuit parce que c'était un groupe qui a beaucoup éclaté aussi au Québec et qui a fait que Richard est connu aussi, beaucoup. Et qui remplacera jamais. Mais je trouve que c'est un poète aussi comme Gilles Vigneault peut l'être.
En tout cas, c'était très émouvant de te voir. Bon, les auditeurs n'ont pas pu te voir, mais je le dis, j'en avais les larmes aux yeux de te voir chanter.
Bon, j'espère que ça n'a pas trop faussé, parce qu'avec les casques, c'est pas évident.
C'était magnifique.
C'était très bien.
C'était très, très bien.
Et ça nous fait un petit peu écouter ton français très particulier, celui de certains chanteurs. Et l'occasion, du coup, de commencer cette chronique linguistique, si tu veux bien.
Bien sûr.
Alors, juste pour rappel, on sait que la langue officielle du Québec est le français. C'est pas un pays bilingue, c'est officiellement la langue exclusive du Québec est le français, en tant que langue officielle. C'est la langue maternelle de près de 80% de la population. Elle est parlée couramment par plus de 94% des habitants, faisant du Québec une région majeure de la francophonie, avec plus de 7 millions de francophones. Et l'anglais, L'anglais est l'autre langue la plus parlée, étant la langue officielle du Canada, et majoritairement parlée dans le reste de l'Amérique du Nord. Près de 45% de la population le parle, dont environ 9% pour qui c'est la langue maternelle. Mais l'enjeu particulier au Québec, et tu nous éclaireras peut-être là-dessus, c'est que la revendication du français comme unique langue officielle a été défendue et instituée par des lois après les années 68, mais surtout depuis 1974, avec la loi sur la langue officielle, puis ensuite jusqu'à aujourd'hui avec la loi 101, qu'on appelle aussi la charte de la langue française, qui définit la francophonie le français comme langue exclusive, et qui impose par exemple que l'affichage se fasse en français, que l'enseignement se fasse en français, que les différentes langues administratives aussi utilisées soient d'abord le français. Or, pour la première fois, ce grand engouement pour la langue française qui a fait qu'on parle de plus en plus français au Québec et que c'est un enjeu national est un peu inversé aujourd'hui, puisque depuis le recensement de 2021, il y a une baisse de la francophonie au profit de l'anglais et de certaines langues. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu plus sur cet enjeu du français comme revendication nationale, comme identité?
Alors, par où je vais commencer? C'est pas évident. Alors, le Québec ça fait 400 ans qu'on se bat pour cette langue, quand la plupart des Français sont au courant un peu, et qu'on a toujours revendiqué, et il y a des gens qui refusent carrément de parler en anglais, exprès, parce qu'ils ne veulent pas perdre ça, et ça va très vite. Avec la mondialisation, c'est juste énorme. Et c'est vrai que moi, personnellement, quand je suis retournée au Québec, il y a quelques années, j'ai été surprise d'arriver dans un magasin à Montréal, qui a un magasin genre Simpson, Eaton, c'est des gros magasins qui sont dans tout le Canada. Mais quand même, la première langue, c'est le français. Tous les écriteaux sont en français en premier, puis en anglais. Et là, la femme a dit « I don't speak French ». J'ai dit « Ben, tu sais quoi? Moi, je parle pas en anglais, fait que je m'en vais. » Je suis partie du magasin parce que j'avais la honte qu'on me parle en anglais. Parce que avant, tout le monde était bilingue quand même. Et j'ai bien peur qu'à cause de cette mondialisation, même le Québec est touché. Ce qui est normal, on est entouré d'anglais. Je veux dire, tout le Canada est anglophone. Les États-Unis. Mais je vais vous donner une petite idée quand même, parce que moi, j'ai entendu une émission avec Bernard Pivot un jour, qui recevrait une grande journaliste du Québec. Bombardier. Madame Bombardier, qui venait à l'époque où il faisait son émission sur la langue française, et que Madame Bombardier disait, Monsieur Pivot, il faut faire attention. Il faut faire attention en France, parce que vous faites assimiler trop vite. Vous n'êtes pas entouré d'anglais. Et regardez toutes les anglicismes qui sont faussement mis dans votre langue, parce que vous francisez tout. Faites attention. Faites attention. Ça fait 400 ans qu'on se bat. Et vous autres, vous dites un parking, un week-end, OK, bien sûr, mais il y a beaucoup de... En plus, avec tout ce qui est informatique maintenant, c'est tout en anglais. Bon, de toute façon, on va y goûter, hein, je veux dire, la mondialisation touche tout le monde. Mais je te parle de ça il y a quand même plusieurs années, ça fait au moins 15 ans, et il avait presque souri quand elle a dit ça, et j'ai pas reconnu Bernard Pivot. Je me suis dit, ça se peut pas. Est-ce qu'il souriait parce qu'il entendait son accent, ou s'il souriait parce qu'elle disait un truc aussi fort, et qu'il disait, ben non, nous autres, on n'est pas touchés par ça. Ben non, ben c'est pas vrai, justement.
Que là, alors excuse-moi de te reprendre, parce que pour nous, peut-être, c'est anecdotique de dire week-end ou parking, etc. Mais pour vous, c'est une valeur, parce que historiquement, vous vous êtes... Le Québec s'est battu pour que ce soit cette langue-là, sa langue. Et du coup, chaque mot, chaque... a cet enjeu-là, c'est ça? C'est
oui,
comme...
oui, mais on a une langue qui s'appelle le joual au Québec. C'est ce qu'on appelle le joual. C'est un mélange d'anglicisme, bien sûr, c'est obligé. Je veux dire, on est entouré, comme j'ai dit, d'anglophones. C'est du vieux français, des mots de vieux français que même les Français me disent... Oh! Mais tu dis ça, toi, cette expression-là, c'est fou. Quand j'étais jeune, ou mes parents disaient ça dans telle ou telle région, ou l'accent que j'ai des fois sur des mots, ils me disent, ah oh, ben ça, c'est notre patois. Dans notre patois, on dit ce mot comme ça.
Tu aurais
c'est
un exemple
quand même. Hein? Et c'est vrai que, effectivement, on a des anglicistes, nous aussi, mais vous autres, vous avez poste... entre guillemets, c'est pas accusateur, hein. C'est juste pour dire que faut faire attention parce que tout s'anglicise de partout, même nos chansons sont rendues en français qui ont des mots anglais et ça peut aller très vite. C'est juste ça que je veux dire.
Tu aurais des exemples en Joël?
Des expressions?
Pourquoi pas, tiens. Tire-toi une bûche, c'est-à-dire tire-toi une chaise. Se faire passer un sapin, c'est se faire passer un savon. Attache ta tuque avec de la broche, c'est quand il fait beaucoup froid. Une tuque, c'est un bonnet chez nous. Et quand tu es obligé de l'attacher avec de la broche, c'est qu'il vente bien fort. Cogner des clous, c'est s'endormir. S'abrier, se couvrir. Passer sa nuit, sa corde à linge, c'est que là, tu as pu beaucoup de canons, puis c'est très difficile à se lever. Fucker le chien, c'est rien faire. Et vous savez qu'au Québec, quand on parle des gauches chez nous, c'est pas du tout des enfants, c'est des couilles. Donc, faites gaffe quand vous allez au Québec. Si vous appelez vos gosses ou vous les avez laissés en France, c'est pas évident.
Je peux juste rappeler la désignation l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, fait du joual. Donc, ils le définissent comme un terme utilisé pour désigner globalement les différences ou écarts phonétiques, grammaticaux, syntaxiques et lexicaux, y compris quelques anglicismes, du français populaire canadien. Et soit pour les stigmatiser, soit pour en faire un symbole d'identité. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt... On en a plutôt vu un symbole d'identité.
Ah oui, très fort.
Et voilà, et ça peut comporter des réalités très diverses, de la même façon que de poser les questions en disant « Tu veux-tu de l'eau ?»
C'est un bon exemple.
Ou des mots très spécifiques, comme je me souviens quand je vivais au Canada, le calorifère, qu'on ne dit pas du tout, la camisole, des choses comme ça.
La camisole, justement, pour nous, une camisole, ça n'a rien à voir avec votre camisole à vous autres. Nous autres, une camisole, c'est un truc avec pas de manche pour la nuit.
Un débardeur, oui.
Voilà, un débardeur. Oui, et excuse, quel mot tu m'as dit? Calorifère, puis? Tu as dit un autre mot, il me semble. Ça m'a fait penser à quelque chose, mais bon, c'est pas grave.
Tu veux-tu?
Eh bien ça, en France, quand j'ai travaillé, parce que j'ai travaillé pendant quelques années en France, il y a un gars qui m'a dit, pourquoi vous dites tu veux-tu? Eh bien, il dit, pourquoi tu? Ben, j'ai dit, ça doit venir de l'anglicisme you, qui veut dire autant tu que vous. Alors, nous autres, on a. Est-ce que c'est. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. C'est comme. Quel autre. Oh, zut! C'est reparti, là. Tu veux-tu? Puis, une autre expression. Bon, ça va revenir. Ça va revenir.
C'est pas si pire.
C'est pas si pire. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de... Ah ouais, dites-moi ça parce que vous me connaissez, donc vous pouvez me... Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de les dire. Des fois, ça m'en revient au bout de 30 ans. Ça fait 37 ans que je suis en France. Et il me revient des expressions, même que moi-même, je me dis, waouh, c'est incroyable que c'est sorti de je sais pas où. Et voilà, ouais, ça me fait du bien aussi. Par contre, les calices puis les tabarnaques, bon, il n'y a pas que ça. Hein? C'est vrai que dans tous les pays, même en France, hein, y a des bons jurons ici aussi. Et nous autres, ça paraît pas des jurons, mais ça en est quand même. Et surtout, c'est des mots d'église, donc c'est pas très, très bien. Mais je crois qu'on a été tellement, tellement pris par la religion catholique dans mon pays. On a tellement été, je dirais, magané, un autre mot. Par tout ce qui est religion, de nous obliger à les confessions, puis les faussetés à côté, tout ça, que moi, je...
T'as vécu ça, toi aussi?
Ah, mais énorme. À l'école, il fallait aller à la confesse tous les semaines, puis on ne savait pas quoi confesser quand on a 5, 6 ans ou 10 ans même. J'ai dit des gros mots, j'ai parlé mal à ma sœur, puis je ne sais pas quoi, mais... Ça voulait rien dire. Et puis après, ben, on nous a punis pour des... Moi, j'étais gauchère et la religion catholique, malgré tout, hein, je suis pas... Pourtant, je suis pas musulmane, qu'on dit que la main gauche et sacrilège un peu. Ben, peut-être je m'avance, mais c'est ce que j'ai compris. Mais en tout cas, moi, vu que j'étais gauchère, je n'avais pas le droit d'être gauchère. Et je pense que c'est à cause de la religion. Et là, on m'a tapé sur les doigts, et on m'a tapé avec la règle. Et tant que je n'avais pas compris qu'il fallait que j'écrive la main droite, et ben voilà. Mmh. Et ça fait des enfants contrariés, et c'est pas drôle.
Ça, je dois dire, enfin, je me permets d'intervenir. Normalement, je fais de la technique, mais j'interviens un peu dans l'émission sur l'aspect gaucher-droitier. Je pense qu'en France, on a eu pas mal ça. C'est pas que l'Église. Ouais. Par contre, comme tu parles de l'Église, je voulais dire que quand je me suis plongée un peu là pour préparer cette émission dans l'histoire du Québec, ça m'a frappé le poids qu'a pu avoir l'Église au Québec. Je ne pensais pas ça, du tout. Pas que je connaissais très bien le Québec, mais oui, ça a eu l'air d'être très, très fort.
C'est très fort. Ben, y a deux, comme on dirait, presque chez nous, il y a une église déjà à chaque coin de rue. Dans tous les villages, même dans le fin fond de l'Abitibi, tu vois des églises, tu te dis, mais c'est donc bien grosse pour un si petit village. Ben oui. Et tous les noms d'églises qu'il y a, Saint-Hyacinthe, Saint-Laurent, Saint-Paul, Saint-Machin, Saint-Truc, Saint... Saint-Notaire, avant c'était Saint-Notaire, puis ça a changé de nom pour un général français qui s'appelait Saint-Notaire, 2-N-O-T-E-R-R-E. Mais c'est vrai que la religion nous a... ça a été très dur. Ils ont voulu évangéliser les Indiens, et puis ça a été un massacre. Ça, on en parlera sûrement plus tard.
Oui, je voudrais reprendre un petit peu sur ce sujet, voilà. Parce que, juste pour terminer la chronique linguistique, parce qu'il me semble que c'est pas complet si on va pas jusqu'au bout. Il y a effectivement ce bilinguisme français, oui. Anglais de fait, et cette prédominance du français. Il y a le joual comme oui. Identité nationale, mais il faut pas oublier aussi, il y a les langues autochtones, oui. Et même si elles sont plus très représentées aujourd'hui, elles existent quand même et elles font oui. Vraiment partie de l'histoire du Québec,
oui.
qu'on retrouve dans les noms hein, dont tu as mentionné là, l'origine en début d'émission. Et, je voudrais juste signaler que donc, les peuples autochtones, ça représente 71 000 individus aujourd'hui à peu près, soit environ 1% de la population québécoise, et que ils ont encore leur propre langue. Donc ce sont les Algonquins, les Iroquois, les Inuits.
Les Ojibwe aussi, donc je peux me permettre de faire une parenthèse sur Michel Rouleau. Peut-être qu'on en parlera plus tout à l'heure. J'évoque son nom parce que c'est une femme extraordinaire qui a travaillé, qui travaille encore pour toutes les femmes autochtones du Canada. Et elle est née à Sainte-Thérèse, d'un père québécois et d'une mère ojibwe. Et franchement, c'est des femmes extraordinaires. On en reparlera tout à l'heure, sûrement.
Aujourd'hui, il y a des choses au Québec, des lois, des mesures qui permettent de préserver ces langues-là, de les valoriser. Comment c'est vu, ces langues, actuellement, est-ce que tu sais?
C'est-à-dire sur...
Est-ce qu'il y a des groupes qui s'organisent pour défendre
les autochtones.
Oui.
Ah, oui. Ben, je pense que de toute façon, bon, écoutez, ça fait 37 ans que je suis plus là, mais j'en entends parler à chaque fois que j'y vais. Et surtout en Abitibi, il y a encore beaucoup, beaucoup d'Amérindiens dans ma région. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai qu'ils ont été mis dans des réserves. Alors, qu'est-ce que les Francs. Je veux dire, moi, ça me touche toujours énormément parce que ça fait plus de 30 ans que j'entends ça. Vous les avez mis dans des réserves et tout ça. Oui, oui, on l'a fait. On l'a fait, mais on l'a fait depuis quand, tu sais? Je veux dire, ça part quand même de la Nouvelle-France, ça, tu sais? Je veux dire, c'est pas nous autres aujourd'hui qu'on a voulu, qu'on a saoulé, et puis qui sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui aussi. Donc, moi, quand j'entends les Français qui sont mortifiés et tout, ben oui, il y a de quoi, c'est comme un apartheid, c'est comme n'importe quoi. Je veux dire, les colonies françaises, il y en a eu combien? Puis qu'est-ce qui s'est passé avec la guerre de l'Algérie, puis tout ça? Je veux dire, chaque pays a ses... C'est mal qu'on ne coule pas, je veux dire, en Allemagne, c'est autre chose. Et puis, je trouve ça, oui, c'est vrai qu'on les a fait du mal. Oui, il ne faut plus que ça se passe. Oui, il faut arrêter ça avec les Amérindiens. J'en suis une des premières à crier haut et fort avec mes amis, Amérindiens aussi. Mais ce n'est pas si évident que ça à dire ou à mettre le doigt sur quoi que ce soit. Mmh. Donc, en tout cas, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est des femmes comme Michel Rouleau qui se bat pour les femmes autochtones, qui ont maintenant des Amérindiens qui sont retournés à l'école et qui représentent les autochtones, qui sont avocats, et malgré que ça va lentement, jusque dans les terres de Baffin, jusque dans la baie James, il y a des gens maintenant qui sont élèves. Il y a une femme autochtone d'ailleurs dans à Frobisher Bay qui a eu des prix. Je me rappelle plus exactement le prix qu'elle a eu, mais elle a défendu à l'ONU tout ça les autochtones. Donc il y a des choses qui se passent, mais en même temps c'est vrai que tout ce qui a été fait, et malheureusement, on ne peut pas sans cesse, ils se relèvent tout doucement, puis tant mieux pour eux. Voilà.
Des fois, il faut plusieurs générations.
Exactement. Pour que ça se répare. C'est pas...
Et oui, c'est
pas, puis pas surtout, ils sont tellement minorités que c'est sûr qu'il faut qu'ils se battent.
Une petite pause musicale.
Qu'est-ce que tu nous proposes pour cette pause musicale, Sylvie?
Alors, ce que j'aurais aimé ça, c'est vous faire connaître aussi un groupe que j'adore qui s'appelle les Cowboys Fringants. Ah, ils sont venus en France. Il y en a qui les connaissent sûrement. Et là, je vais vous faire écouter Les Étoiles Filantes, qui est un de ses plus grands succès.
On y va.
Je m'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Je m'arrête un instant pour te parler de la vie. Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit. Et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, n'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus le goût de m'en faire. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Dis-moi ce qui va rester. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Des étoiles filantes.
D'habitude, dans notre émission ici et d'ailleurs, on fait une petite chronique historique et politique. Je pense que là, aujourd'hui, on va faire un petit peu différemment. Pour ces chroniques, on demande à des experts, comme qui dirait, les experts, on en entend beaucoup parler dans les radios officielles. Nous, c'est une forme d'expert qu'on interview d'habitude aussi. Là, c'est moi qui vais faire quelques petits rappels. Je ne connaissais très très mal l'histoire du Québec, et par contre, quand on a commencé à préparer cette émission, je me suis plongée dedans et ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Alors les dates, c'est un peu rébarbatif, mais je vais juste en donner quelques-unes. Alors déjà, Jacques Cartier, en 1534, découvre le Canada. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, et je pense que c'est très intéressant par rapport à ce que Sylvie a dit tout à l'heure, les rives du Saint-Laurent deviennent une possession du roi de France. Donc quand on parle des Amérindiens, c'est vrai qu'on a aussi notre part de responsabilité, puisque ça a été le Canada faisait partie du royaume de France, quoi, pendant pas mal de temps. J'avais noté aussi au XVIIe siècle que ça a été la fondation des villes, d'abord Québec, puis Trois-Rivières et Montréal. Justement, quand on parle des Amérindiens, au début du XVIIIe, tout à fait au début, puisque c'était en 1701, a été signé un traité de la Grande Paix de Montréal avec les Amérindiens. Je suis pas sûre, Sylvie, tu pourras nous dire, mais que ça a eu beaucoup d'impact et de bienfaits pour cette population. Et donc, ce n'est qu'en 1763 que Louis XV capitule face aux Anglais. Donc jusque-là, c'était Royaume de France, bon, avec des guerres, sur la responsabilité de la France sur ce qui s'est passé là-bas, c'est important. Il y a eu un acte qui a été créé en 1840, l'acte d'union alors qu'en 1791, il y avait eu un acte qui faisait qu'il y avait deux provinces, le Haut-Canada, peuplé d'anglophones, et le Bas-Canada, peuplé à majorité de francophones, avec chacune des deux provinces, avaient leur assemblée. Et en 1840, par contre, on revient à un parlement unique et la langue anglaise devient officielle. Et puis quand même, une date qui me paraissait importante, c'était 1867, l'ancien Bas-Canada devient Province of Québec, en 1867. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, ça aussi, Sylvie, tu pourras peut-être nous réagir là-dessus. Je suis pas sûre que cet acte-là qui fait de Québec, qui crée la province de Québec, les Canadiens français, d'après ce que j'ai compris, se sont un peu sentis dans un statut de minorité à cette époque-là. Mais c'est ce que j'ai lu, c'est peut-être pas la réalité. Après, pour faire une brève histoire politique, de 1936 à 39, puis de 44 à 59, le premier ministre du Québec a été Maurice Duplessis. Sa politique, c'était un mélange de nationalisme traditionnel, de conservatisme et de capitalisme débridé. Il y a juste eu, entre ces deux mandats, de 39 à 44, un gouvernement libéral. Je pense que c'était important d'en parler parce que, en fait, Duplessis, mais surtout de l'autre, à la limite, je dirais, qui s'appelait, je vais peut-être très mal prononcer, Adelard Godbout. Qui de 39 à 44 a été premier ministre et qui a octroyé à ce moment-là le droit de vote pour les femmes, qui a instauré l'instruction obligatoire et qui a préparé un plan d'assurance maladie. Mais après, on est revenu à Duplessis. Jusqu'en 59. Et après, 1960, ça a marqué le début de ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. Alors, je ne sais pas si tu veux nous parler un peu de la Révolution tranquille ou si tu veux que j'en dise encore quelques mots. C'est le premier Premier ministre qui a lancé cette Révolution tranquille, c'était Jean Lesage, et qui a fait vraiment des réformes en profondeur qui ont énormément changé la vie du Québec. D'abord parce que l'État a pris en charge l'éducation, la santé, les services sociaux, qui étaient avant des domaines de l'Église. Et donc, ça a entraîné un très net recul de la place de l'Église à partir des années 60. Comme je disais tout à l'heure, ça m'avait vraiment beaucoup surprise, la place qu'elle avait avant. Et puis, je pense que c'est important de parler de deux référendums qui ont eu lieu, parce que quand même, la vie politique du Québec a été très marquée par... il y a soit ceux qui veulent la souveraineté du Québec, soit ceux qui veulent être attachés au Canada. Et donc, il y a eu deux référendums sur la souveraineté du Québec, mais dans un partenariat économique et politique avec le Canada. Et les deux référendums, le vote contre a gagné, le premier avec 59,6% et le deuxième avec 50,4%.
Excuse-moi. Si je peux juste dire, c'est grâce à René Lévesque qui a été celui qui a amené le Québec à vraiment très proche de ce référendum qui aurait pu marcher. Malheureusement, c'est battu et tout ça. Il est arrivé plein de choses au Québec aussi à cette époque-là, avec le Pierre Laporte qui a été assassiné aussi. Il y a le truc du FLQ, le Front de libération du Québec qui a existé aussi à toute cette époque et qui a mené à des grands chambardements. Et voilà, et c'est vrai que malheureusement, les gens ont encore peur de se libérer du Canada. Pourtant, c'est, comme je vous ai dit, ça fait 2,5 fois la France, même presque 3 aujourd'hui. Et puis, surtout qu'il y a des ressources naturelles immenses, du textile, il y avait l'électricité, il y a tellement de choses qu'on aurait pu faire un pays sans problème avec notre langue. Et voilà. Alors, il y a eu un deuxième référendum qui malheureusement a échoué. Je crois que maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec la peur du futur qu'on note partout, avec tout ce qui se passe dans le monde, je pense qu'on est passé à côté de quelque chose de vraiment...
Tu crois pas qu'il y aura un autre référendum
que ça... Honnêtement, c'est pas... J'espérerais. Je veux dire, je veux pas me mentir. Moi, d'après moi, on a passé le coche, puis voilà. Hein. Ça s'est pas fait. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans le monde. Ça veut dire... là, les gens... Ouais. Ils ont peur.
Alors, il y a eu un autre mouvement, je ne sais pas s'il a été... ce qu'il représentait, pour moi, il m'a paru intéressant quand j'ai lu, mais peut-être que ça n'a pas eu le poids que j'ai mis dedans. C'est le printemps érable.
Oui.
C'était un mouvement en 2012 des étudiants.
Ah oui. Oui, avec les casseroles, tu veux dire.
Ouais,
j'ai suivi ça de loin.
Mais t'étais déjà ici.
Oui.
Alors, eux, c'était pour la gratuité scolaire,
oui,
la laïcité et oui, l'écologie.
Oui, tout à fait. Et je n'ai beaucoup entendu parler, malheureusement, j'étais pas là. Mais ça, c'est. Je ne sais pas si c'est commencé au Québec, cette histoire de casseroles, ou au Mexique, ou je ne sais pas où, là, en Amérique du Sud. Et. Ça a fait une ampleur. C'était la première fois qu'on voyait autant de jeunes dans la rue, d'ailleurs. C'est vrai que ça a été énorme.
Ça a été énorme. Et ça a été réprimé assez violemment.
Oui, aussi. Mmh. Ben oui.
Alors, juste pour dire, terminer quand même sur un peu la chronique politique, on va parler d'aujourd'hui. Donc, depuis 2014, c'est le même Premier ministre, c'est François Legault, de la coalition Avenir Québec qu'il a créée lui-même.
Oui. Parti politique, oui.
Voilà. Je ne sais pas trop quoi dire de François Legault.
Il n'est pas libéral, Legault. Mais en tout cas... M. Legault, c'est le premier ministre du Québec, parce qu'il y a un gouvernement provincial pour chaque province et un gouvernement pour tout le Canada. Donc, on paye des impôts à deux endroits, on vote à deux endroits.
Vous votez pour le gouvernement fédéral?
Pour le gouvernement du Canada, pour le premier ministre du Canada et pour le premier ministre du Québec.
D'accord.
Donc, on a deux premiers ministres et on a deux gouvernements, voilà, provincial. Chaque province a son gouvernement. Voilà.
Ah, il n'y a pas que le Québec.
Non, les autres provinces ont un gouvernement en Ontario et il y a tout le Sénat, tout ça de chaque gouvernement et le gouvernement de tout le Canada.
D'accord.
Okay. Puis je pense que vous devez savoir que le Canada fait partie de du Commonwealth. Donc, notre reine, c'est la reine d'Angleterre. Et c'est vrai qu'au Canada, ils la vénèrent à genoux. Et qu'au Québec, ben, un peu moins.
Peut-être un peu moins, oui.
Debout.
Ouais.
OK. Ça fait combien de temps, toi, déjà, que tu n'es pas retournée au Québec?
Avant le COVID. Je suis allée il y a 3 ans, heureusement pour moi.
Mm-hmm.
Bon, j'y vais plus souvent d'habitude. J'espère y aller cette année. Mais oui, depuis que je suis en France, ça fait 37 ans, comme j'ai dit tout à l'heure.
Ah oui, 37 ans, ouais, c'est ça.
Oui.
Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendue droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver. Des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange entre le cristal et le verre. Où viennent se poser des anges. Je reviendrai à Montréal, écouter le vent de la mer, se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux revoir le long des airs. Qui vont jusqu'au bout de l'hiver sans qu'il y ait trace de pas. J'ai besoin de sentir le froid, mourir au fond de chaque pierre. Et rejaillir au bord des toits comme les glaçons de bonbons clairs. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer.
Alors on était resté, c'était en Savoie ou en Haute-Savoie où tu avais travaillé un an là-bas.
Oui,
et on t'avait proposé un travail.
En alpage. Donc, j'ai été bergère pendant, je dirais, 7 ans, grosso modo, parce que j'ai travaillé en Savoie, puis j'ai travaillé dans le Midi avec les éleveurs là-bas du Sud. J'allais l'hiver. Mais les 3 premiers hivers, il faut dire que je retournais au Québec, parce que, je faisais ça un peu bénévolement. Donc, il fallait que j'aille faire des sous pour... donc, je travaillais en alpage tout l'été et j'apprenais tout. Donc, pour moi, c'était le plus beau cadeau. C'est le plus beau métier que j'ai fait dans ma vie. Je ne regretterai jamais ça, bien que j'ai dû l'arrêter au bout de ces années avec un grand trou dans le cœur parce que j'ai été presque 2 ans à m'en remettre. Parce que c'était pour ça que je suis venue en France.
Ah, c'est c'était pas pour ça chose. Que tu étais venue en France.
C'était ma raison première.
Parce que là-bas, il n'y en a pas.
Parce que là-bas, déjà, il y avait, à l'époque, il y avait des brebis, mais 2-3. Et on n'a pas les Alpes, on n'a pas la transhumance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la transhumance, de transhumer avec les camions, à pied. On a fait des transhumances à pied quand j'étais encore...
Tu peux nous décrire un petit peu ça, peut-être, la transhumance?
Alors, la transhumance, je pense que pour les Français, vous savez à peu près ce que ça consiste. C'est qu'avant, les animaux, ils venaient d'eux-mêmes. Quand il n'y avait plus d'herbe dans le sud, ils montaient au fur et à mesure dans les Alpes. Et donc, ils l'ont fait d'eux-mêmes. C'est là, après, la transhumance a commencé avec les bergers qui ont eu des troupeaux là-bas et qui les amenaient en alpage, à pied. Enfin, ça prenait plusieurs mois, ils les faisaient manger dans le parcours. Et après, ben, on ne pouvait plus à cause des routes, donc on a commencé à faire hyper et par train, je crois bien, sur des trains. Et maintenant, c'est par camion semi-remorque qui contient environ 250 bêtes sur 2-3 étages. Et on les amène dans les Alpes. Sauf que Célier est un tout petit village très encaissé, pour ceux qui connaissent. On ne pouvait pas aller jusqu'à Célier avec les camions. Donc, nous, on allait dans la vallée tout en bas chercher le troupeau et on le montait jusque au village déjà. Et tout l'été, vu que c'est des petits alpages, des petites combes, et on se déménageait au fur et à mesure de la fonte de la neige.
Donc, vous alliez à pied. Et vous mettiez combien de temps alors pour arriver là-bas?
Disons que ça prenait une demi-journée pour aller jusqu'à Célier. Ça faisait même 15-20 km, mais par des petites routes entre les villages aussi. On est passé d'un village, voilà.
Et tu as fait ça combien de temps?
J'ai fait ça 7 ans. Donc, j'ai fait ça 3 ans avec Fernand, donc il m'a appris ce métier. Je l'ai fait 2 ans toute seule. Ça a été assez difficile parce que là-haut, au niveau solitude ou bien au niveau physique, c'est très, très physique, hein, parce que des fois, on se met des charges de bouffe sur le dos de 15 kilos. Et puis surtout, quand il fait beau, il fait beau, mais quand il fait pas beau, Enfin, tout ça pour vous dire que quand même, j'ai fait un diapo que j'ai présenté pendant 10 ans dans les écoles de Savoie, d'Haute-Savoie, au Québec, dans le nord de la France, dans les stations, qui relate tout la transhumance, parce que on s'imagine pas ce que ça représente quand on connaît pas. On se dit, oh, ben, le gars, il est au soleil, dans l'air à travers des fleurs, là, tu sais, puis tout va bien. Non, il faut les soigner, il faut les garder, qu'il pleuve, qu'il neige, il faut faire attention aux soins tous les jours, à donner du sel parce qu'ils en ont besoin. Donc, c'est toute une vie, c'est tout un métier extraordinaire, mais qui est très... qui est quand même dur. Mais moi, j'aimais ça quand même. Et après, je l'ai fait en remplacement parce que je suis tombée enceinte. Donc, j'ai pas eu le choix. Voilà.
Et là, tu étais encore en France.
Là, j'étais encore en France, oui. Okay. J'ai eu ma fille, j'ai eu une belle-fille qui est en Haute-Savoie maintenant et qui vit en France et qui est française, qui est née en France, c'est-à-dire. Voilà.
Wow.
Et mais après toutes ces années, donc vu que je faisais plus ce métier, j'ai rencontré mon mari. Donc je devais repartir au Québec parce que je me suis dit si je peux plus faire ce métier-là, le pourquoi je suis venue en France, je vais retourner chez moi. Mais c'était avec un grand trou dans le cœur. Puis dans l'été, qui sait qui est pas arrivé, un cuisinier à l'hôtel du Grand Pic, donc où j'avais travaillé, où je vivais. Et j'ai dit, tiens, voilà, et puis je suis restée, et puis je suis encore restée, et encore restée. En 2000, j'ai réussi à convaincre mon Philippe de venir faire un tour, vivre au Québec, s'il voulait bien. Mm-hmm. On a fait tous les papiers, on est parti là-bas pendant 2 ans, puis il a dit, tu sais, moi, je ne suis pas faite pour immigrer. Je ne peux pas vivre loin de mon pays. Pourtant, il était venu très souvent au Québec avec moi, tout ça, avec notre fille. Mais il dit de là à vivre là-bas. Il a réalisé, en mettant le pied sur le sol québécois pour immigrer, qu'il ne pouvait pas. Ben, j'ai dit, OK, c'est bon, on revient en France. Et 2 ans après, on est revenu.
Et au même endroit, alors?
Non, en Haute-Savoie, ce coup-là. Donc, tu sais, vu que j'aime bien déménager et qu'il m'arrive toujours des choses qui font que je déménage. Hein. Donc, je suis partie en Haute-Savoie. On a vécu pendant 11-12 ans. Et puis après, bon... Je ne vais pas vous raconter ma vie intime, mais on s'est séparés. Et c'est de là que j'ai vécu avec Grenoble pendant 11 ans. Et là, j'ai travaillé pour les personnes âgées pendant 11 ans. Et aussi pour le handicap, personnes handicapées mentales, dans une association à Grenoble. Et j'ai pris ma retraite en 2020. Et donc, j'ai dit, après 10 ans, j'ai envie de partir. Parce que j'avais envie de plus de... Tu sais, à retraite, c'est plus cool quand t'es... Bon, je sais pas, j'avais moins envie de la ville. T'as je vais partir en Ardèche, et la vie m'a emmenée à Cré.
Ah! Et comment t'es arrivée à Cré?
Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai eu le temps, parce que, tu sais, quand je pars, moi, je m'arrête plus.
C'est passionnant.
Oui, tu peux... Parle-nous de ton arrivée à Cré.
Mon arrivée à Cré a été due à un ami à moi qui était justement de la masse, que tu connais d'ailleurs, Nabi, et que tu connais, Sarah, aussi, et toi aussi, et qui a... Je suis venue ici parce que je voulais rencontrer aussi un artiste de votre région qui s'appelle Mireille Vauvy. Et j'ai vu cette artiste, j'ai vu ce qu'elle faisait à Aubusson, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est? J'ai trouvé ça fantastique parce qu'elle fait du tissage sur des tableaux acryliques, et donc... Je tombe en amour, comme on dit. C'est une expression. Je tombe en amour avec ce qu'elle fait. Et je me suis dit un jour, oh, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'elle expose, cette femme-là, parce qu'elle doit bien exposer ailleurs. Et je me suis rendu compte qu'elle était de Cré. Oh! J'ai dit, c'est pas vrai. Donc, j'ai appelé ma copine. Je dis, moi, j'aimerais ça. J'ai écrit à cette dame. Elle veut nous recevoir à son atelier. Je viens. Donc, je suis revenue à Cré. Et revenue à Cré, finalement. Et puis un jour, elle me dit, ben, si tu ne sais pas trop si tu vas aller à la Mastre ou ailleurs, et si tu venais rester à Cré, ben, j'ai dit, pourquoi pas, j'ai lancé ça comme ça. Et j'ai trouvé un appartement. Et ça fait un mois et demi que je suis là, et c'est incroyable tout ce qui m'arrive. Déjà d'être ici voilà, à la radio, vrai. J'en reviens pas, là. Mais j'aime bien ce lieu. Voilà.
On va mettre un peu de musique.
Alors, cette musique que vous venez d'entendre, c'est André Gagnon qui l'a composée, qui a travaillé très longtemps avec Félix Leclerc. Et qui, Félix Leclerc, a travaillé beaucoup avec Édith Piaf, ce qu'on ne sait pas en France. Il a écrit des chansons avec elle, pour elle aussi, et avec elle. Voilà, donc, ça s'appelle « Le Saint-Laurent ». Et moi, c'est une musique qui m'a touchée énormément et qui me touche toujours. Et si vous pouvez l'écouter tranquille chez vous, parce que là, on n'a pas pu mettre toute la musique parce que c'est trop long. Donc, ça explique finalement, au piano, parce que c'est un pianiste, hein, le début, l'embouchure du Saint-Laurent. Donc, la musique te retrace tout ça. Tu entends le Saint-Laurent qui pétille, et puis après, tu arrives dans Charlevoix, où le Saint-Laurent est beaucoup plus calme, et tout ça. Et la fin, c'est juste pas possible, parce que tu t'en vas vers l'océan. Donc, vous imaginez juste la musique qui monte, jusqu'à l'embouchure du Saint-Laurent qui se jette dans l'Atlantique. Voilà. Wow. Donc, j'ai voulu cette musique parce que, pour moi, c'est le Québec.
Et tu peux nous rappeler le titre et où est-ce qu'on peut la trouver?
C'est Le Saint-Laurent, le titre de cet album, il y en a fait plusieurs, si ça vous intéresse, et il s'appelle André Gagnon, et André Gagnon est mort, je crois, il y a un an ou deux, et ça a été une grande perte au Québec.
Je voulais revenir sur une question qui me taraudait. Quand tu arrives en France, comment ça s'est passé pour toi? Comment la France ou les Français t'ont accueilli?
Alors, la première fois, ça fait longtemps que je suis venue en France, mais j'étais en voyage. Là, je suis venue pour travailler dans ce village que je vous ai dit, en Savoie. Et je me rappelle que j'ai été reçue comme une reine. Les gens m'ont accueillie avec... déjà, ils m'ont bien servi un petit canon, hein, déjà. Et puis, j'ai été très bien accueillie. Voilà. Et... Ce que je peux dire sans gêne, je veux dire, on est Québécois, c'est vrai qu'on est bien accueillis chez vous, depuis toujours. Et que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui me disent d'être allés au Québec, qu'ils adorent mon accent, que ça les fait chanter, que ça les fait rire. Et moi, ça me fait du bien, parce que si je peux enfin, au jour d'aujourd'hui en plus, faire rire les gens, ça me fait du bien moi aussi. Et donc, et qui sont beaucoup allés au Québec, ils ont beaucoup d'enfants qui sont partis là-bas, qui ont trouvé des bons jobs et des bons boulots, et que Tant mieux. Il y en a beaucoup qui sont revenus parce qu'il fait froid. À l'hiver, au moins 38, ils n'ont pas supporté. Mais il ne fait pas toujours moins 38. Puis le cœur des Québécois réchauffe beaucoup.
Ah oui, ben ça, on peut le sentir chez toi en tout cas.
Merci.
Puisque on parle d'immigration, de ton accueil ici, ça me paraîtrait intéressant de revenir sur un point que j'ai découvert justement en me plongeant un peu dans la vie politique et historique du Québec. C'est ce qu'on appelle l'accommodement. Alors je vais bafouiller, je pense, plusieurs fois en disant ce mot, mais vous me pardonnerez. L'accommodement raisonnable. C'est un principe qui existe au Québec et qui, moi, m'a fait beaucoup penser à ce qu'on a pu vivre et qui a été assez catastrophique sur le débat sur le voile. Donc, je vais vous expliquer assez rapidement ce que c'est. Un accommodement est dit raisonnable lorsqu'il n'enfreint pas les droits de la majorité. Et quand une demande d'accommodement est faite à une entreprise ou à une administration, elle doit être prise en considération, étudiée et une réponse doit être apporté. Si aucun accord n'est trouvé, ça passe en justice. Et un accommodement raisonnable, ça veut dire que, ben, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont demandées. Et par exemple, en France, pour revenir au débat quand des parents demandaient à ce que leur petite fille puisse porter le voile à l'école, ça aurait fait partie d'un accommodement raisonnable au Québec. Et je voudrais revenir sur le philosophe Charles Taylor, qui, à mon avis, a dit des choses très intéressantes. C'est un philosophe assez connu au Québec. Et pour lui, le fait d'interdire de porter des signes ostentatoires de sa religion est totalement discriminatoire. Comme il l'explique, dans la religion catholique, et c'est sa religion, donc c'est sa propre religion, on peut pratiquer sa religion de manière très discrète. Alors que pour des juifs orthodoxes, des musulmans, certains sikhs également, cacher sa religion équivaut à la renier, et donc à renier son identité. Et je trouve qu'expliquer comme ça, ça fait beaucoup réfléchir sur ce qu'on fait et comment on agit en France. Pour lui, on ne peut discriminer une religion que si elle est violente, si elle nuit aux autres ou si elle bloque la bonne marche des institutions. Et le principe que lui préconise me paraît très intéressant. Ce qu'il dit, c'est « les institutions sont neutres et les individus sont libres ». Donc je vais le citer là. « L'école n'est pas neutre si elle prodigue une éducation confessionnelle. Mais dans une école neutre, ce n'est pas un problème qu'un professeur ou un élève porte un voile ou une kippa. Il ne dérange pas les autres et il n'empêche pas le bon déroulement de la classe ». Alors là, je ne citais plus quand je disais cette explication. Je le recite de nouveau. L'État ne doit pas s'aligner pour ou contre une religion, mais à l'intérieur de l'État, les individus sont libres de leurs croyances. Ça me paraît très intéressant et je pense que ça serait bien de faire une émission complète sur cette question-là, quoi. Parce que, de fait, la société québécoise est fondée sur l'immigration. Elle s'assume en tant que telle, alors que les sociétés européennes sont devenues de fait des terres d'immigration, mais elles ne le reconnaissent pas et donc elles ne le pensent pas correctement. Si tu veux réagir, permets-toi, au contraire.
Claire, bien sûr. Pouvoir aussi on a parlé d'un truc l'autre jour et on parlait de l'immigration, entre autres au Québec, effectivement, qu'on disait que dans tout, entre autres à Montréal, mais il n'y en a pas qu'à Montréal, hein, mais il y a beaucoup plus d'immigration dans les grosses villes. Et à Montréal, on a des quartiers juifs, des quartiers italiens, des quartiers grecs, des quartiers musulmans, des quartiers... Il y en a pour tous les goûts, des quartiers espagnols, des quartiers italiens, je crois que je l'ai dit, asiatiques. Et on a un Chinatown à Montréal, ce qu'on appelle, tu as l'impression de rentrer en Asie, quoi, en Chine, ou quartier chinois, hein, il y a quelque chose. Et donc, on se disait qu'ils ne sont pas enfermés, les gens, parce que c'est ce que tu disais, Claire, je crois que tu vas pouvoir l'expliquer, mais que nous, les gens, au contraire, ça leur fait un échange extraordinaire avec nous, parce qu'on avait envie de les connaître, ces Italiens-là, puis ces Grecs-là, puis tu sais que quand tu vas dans ce quartier-là, t'as tout ce qu'il faut de fromage, de nourriture ou de personnages ou tout ça, de restauration qui sont là et les québécois en échange avec ces gens-là. Et avec quel que soit le quartier, mais ils ne se sentent pas comme dans un ghetto ou je ne sais pas quoi. C'est pas... En France, Claire, c'est ce que j'ai expliqué. Parce qu'elle est venue au Québec, elle aussi.
C'est juste que ça m'avait marqué que ce n'était pas fait de la même façon. De fait, ces quartiers-là, ils existent aussi en France. Hein, un quartier chinois, oui. Un quartier oui. arabe, etc. Simplement, ils ne sont pas institutionnalisés. On n'a pas dit... Dans tel quartier, on va monter un quartier chinois, etc. Moi, ce qui m'avait frappée à Montréal, c'est que, à l'époque, en tout cas, par exemple, il y avait ce qu'on appelait des plans. Et c'était construit pas de la même façon qu'en France, où la ville, c'est plutôt socio-économiquement, un certain nombre de populations se retrouvent dans les banlieues, ou, etc. Alors qu'à Montréal, ces plans, ils sont... au sein même de la ville, ils sont organisés. Et là, par exemple, il y avait un plan d'une communauté haïtienne. Et donc, c'était institué, c'était à un endroit. Et du coup, ils avaient le droit à des aides, une organisation particulière. Donc, de fait, ces quartiers existent aussi en France, mais ils se font par le... Comment dire par les...
Ils ne sont pas pensés.
En tout cas,
ils ne sont pas réfléchis.
Et puis, ils ne sont pas organisés de la même façon. Et voilà. Je trouvais ça intéressant de concevoir la ville même en intégrant dans le centre ces petits quartiers-là et de voir ça de cette façon-là.
Oui, de voir une belle opportunité d'immigration, de connaître des gens d'ailleurs, au lieu de les sous-estimer souvent. Hein. Et je dis pas que c'est tout le monde. Puis chez nous aussi, on n'est pas parfait. Puis il y a du racisme, je trouve, plus qu'avant, au Québec aussi. Ça m'a aussi fait un peu de peine, mais bon, hein, qu'est-ce que tu veux. Mais il faut faire attention à tout ça, il faut faire attention, parce que même le nouveau gouvernement, là, il faut qu'il fasse attention à l'immigration aussi. Enfin, je ne peux pas en dire plus parce que je vis pas là-bas, je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais tout ce temps qu'on est, il faudra essayer de vivre en paix un minimum, hein, parce que ce n'est pas très joyeux.
Tout à fait. Et c'est un peu le but de l'émission que l'on fait ici, en fait, aussi.
Oui, au moins de questionner cette question-là avec des points de vue différents. Donc, elle questionne ici, elle questionne ailleurs. Ouais. Et ces entre-deux, justement, permettent de questionner autrement.
Alors, je vais faire un passage un peu facile. Est-ce qu'à Toronto, il y a ces quartiers aussi?
Oui.
Alors, on va s'y balader.
Ah, parce que c'est un auteur québécois, bien sûr. Mais il a fait une chanson qui s'appelle La balade à Toronto. Puis c'est aussi beaucoup, beaucoup écouté par la jeune génération, je dirais plus. Quoique, c'est un de mes amis qui me l'a donné le disque. Donc, par pas mal tout le monde. Voilà.
Aujourd'hui, la fumée d'incendie a jauni le ciel et rougi le soleil. Les étoiles du nord nous rappellent la mort et tu m'appelles encore. Tu dormais sur le banc tandis que je conduisais et j'espère ne jamais arriver. Regarde les étoiles. Tant qu'il y aura des étoiles sur le bord de la route, nous devrons nous arrêter. Tant qu'il y aura des rivières, nous baigner. Et tant qu'il y aura le feu, nous irons peu à peu, été comme hiver, vagabond, millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond, millionnaire, amoureux. Le temps passe et un jour on est vieux et puis seul et rien ne reste plus que la fierté d'avoir aimé correctement ou la honte et les tourments de ne pas avoir compris. Attends, attends, j'ai quelque chose à te dire. Il y aura
étoiles. Sur le bord de la route, nous pourrons nous arrêter tant qu'il y aura des rivières. Nous pourrons nous baigner et que plus jamais rien ne redoute notre destin que celui du doute. Jamais je n'oublierai les étoiles sur la route de Toronto et ce jour sur cette plage du lac Ontario. Millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond, millionnaire, amoureux.
Sylvie, j'aurais une question à te poser en fait. Parce que le Québec, ça va haut. Il y a le nord du Québec qui doit être quand même pas mal touché par toutes les questions écologiques. Ça pourrait être intéressant. Enfin, est-ce que tu sais un peu ce qui se passe là-bas et quel est l'impact des changements climatiques sur le Québec?
Oui, mais pas que les changements climatiques. Un petit aparté. Hein. Je veux reparler de Richard Desjardins, comme on a dit, qui se bat pour la déforestation. Je l'ai dit, mais aussi il a fait un film entre autres qui s'appelle Trou. T-R-O-U, et non True, T-R-U-E, Story, parce qu'il y a une ville en Abitibi qu'ils ont complètement détruite pour mettre les mêmes maisons de l'autre côté de la rue avec un gros trou, avec une grosse mine de gaz de schiste qui a été épouvantable. Donc déjà, toutes les mines, toutes les minerais, tout ce qu'ils ont pu faire là-bas, c'est assez horrible. Et en plus, ben, comme vous savez, c'est vrai que le Grand Nord du Québec aussi est très touché par le climat. On l'a dit assez souvent, les ours ont plus de place. On a fait des barrages, on a fait des choses, ben voilà, on a détruit des rivières immenses. On a fait mal à notre planète, puis pas rien que chez nous. Et moi, j'ai une fille que j'adore, qui a fait une chanson merveilleuse. Et je suis très surprise qu'elle n'ait pas passé, peut-être au Québec. Mais en tout cas, je veux vous faire écouter cette chanson-là, qui s'appelle « Ne tuons pas la beauté du monde ». Et il faut se dépêcher, comme on dit chez nous, il faut se grouiller, là, puis faire quelque chose au plus vite.
Et puis on finira l'émission sur cette chanson. Merci beaucoup Sylvie.
Merci
Sylvie.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Merci Sylvie.
Merci.
Ne tuons pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas le chant des oiseaux. Ne tuons pas le bleu du jour. Ne tuons pas. Un grand jardin pour ceux qui viendront après nous.